RFI 9h à Port-Soudan, Rome et Paris, midi et demi à New Delhi.
RFI Matin.
Martin Guez, les appels à la retenue se multiplient ce matin après une nuit de violence au Cachemire.
Et la Grande-Bretagne qui se dit même prête à intervenir pour une désescalade entre l'Inde et le Pakistan. Au moins 34 morts cette nuit des deux côtés de la frontière. Le conflit au Cachemire ravivé par l'attaque terroriste du 22 avril dernier en Inde. Nous appellerons notre correspondant à Bangalore comme Bastin.
Direction Rome. Ensuite, et cette question, qui pour succéder au pape François?
Un secret bien gardé et qui devrait le rester au moins jusqu'à ce soir. Il faudra s'armer de patience en cette journée de conclave. Un vote très discret auquel se soumettront 133 cardinaux. C'est notre dossier ce matin et on retrouvera notre envoyé spécial au Vatican, Nicolas Roca. Ahmed Al-Shara à Paris pour la première fois. Le président de la transition syrienne se rend dans l'Union Européenne et a rendez-vous avec Emmanuel Macron à l'Elysée. Avant lui, c'est le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz qui se rendra dans la capitale française. Enfin, Andréane, impossible de dire un petit mot sur la fabuleuse qualification de l'Inter Milan en finale de la Ligue des Champions des Milanais tombeurs au bout du suspense du FC Barcelone.
Des tirs et des morts de chaque côté de la frontière. Le Pakistan et l'Inde s'affrontent violemment au Cachemire.
Et l'Inde qui affirme avoir détruit des camps terroristes. Le Pakistan dit avoir de son côté abattu 5 avions indiens pour se défendre et répondre à l'ennemi, a déclaré le porte-parole de l'armée. Au moins 26 civils pakistanais sont morts. La riposte d'Islamabad qui a fait 8 morts et une trentaine de blessés dans le village indien de Poonch. Ce qui fait craindre une guerre de grande ampleur entre ces deux puissances nucléaires. Le comité de sécurité nationale pakistanais est en pleine réunion. Réunion d'urgence aussi en Inde où l'on retrouve notre correspondant Com Bastin. Bonjour Com.
Bonjour.
Le ministère des Affaires étrangères indien qui vient lui de communiquer pour justifier son opération de la nuit passée.
Oui, différents porte-paroles qui se sont succédés pour affirmer avoir des preuves que les auteurs des attentats au Cachemire sont bien liés à un réseau terroriste basé au Pakistan. New Delhi qui reproche à Islamabad son absence de coopération dans la lutte contre ces groupes insurgés transfrontaliers et donc justifie des frappes sur 9 camps d'entraînement terroriste au Pakistan cette nuit. Alors tout en affirmant son droit à se défendre, l'Inde insiste aussi sur le fait que sa réponse, elle est précise, mesurée, qu'elle n'a pas visé de cibles militaires ou civiles parce que la crainte est évidemment celle d'une escalade alors que le Pakistan nie en bloc ses accusations et promet une réponse à ce qu'il considère comme une déclaration de guerre. Et pendant que la diplomatie est dans l'impasse, c'est à la frontière contestée entre les deux pays dans le Cachemire que la pression monte depuis ce matin. Selon l'Inde, le Pakistan y déchaîne son artillerie qui a déjà fait de nombreuses victimes. L'Inde qui a reconnu aussi avoir perdu 3 avions durant la nuit et donc un bilan qui est d'ores et déjà du jamais vu au 21e siècle entre les deux puissances.
Merci Com Bastin. En direct de Bangalore sur RFI, la Chine et la France appellent ce matin à la retenue. Le monde ne peut pas se permettre une confrontation militaire, s'alarme l'ONU, et Londres qui se dit prêt à intervenir pour une désescalade. Nos dernières informations sur le conflit au Cachemire à retrouver sur notre fil en direct. Rendez-vous sur le www.rfi.fr. Et juste après ce journal, Andréane, vous recevrez Olivier Dallage, spécialiste de l'Inde et ancien rédacteur en chef sur RFI.
Un vote des plus secrets au Vatican. Le conclave débute dans quelques heures.
Un secret bien gardé, 133 cardinaux, enfermés à double tour, interdits de communiquer avec le monde extérieur. 133 prélats venus du monde entier qui auront l'immense responsabilité de désigner un successeur au pape François. Un secret nommé conclave, secret que l'on tente de percer ce matin avec notre envoyé spécial au Vatican, Nicolas Roca. Bonjour Nicolas.
Bonjour Martin.
Nicolas, on imagine l'effervescence dans les rues de Rome. C'est une journée pas vraiment comme les autres qui s'annonce place Saint-Pierre et dans la chapelle Sixtine.
Oui, sur la grande avenue qui mène vers la place Saint-Pierre, justement, tout est prêt. Des barrières sont installées pour gérer la foule. Des écrans géants également autour de moi, des touristes, des journalistes et des religieuses dirigent vers le Vatican. Les cardinaux électeurs, eux, sont en train d'arriver à la chapelle Saint-Sébastien. Ils vont participer dans une petite heure à une messe. Mais le moment que tout le monde attend ici, c'est cet après-midi, 16h15, heure locale. Vêtus de leur robe rouge, les cardinaux vont entrer, accompagnés par des chants religieux, en procession vers la chapelle Sixtine où vont se dérouler les votes. Ils vont prêter serment avant que le maître de cérémonie le proclame en latin « extra omnes », tous dehors, seuls pourront rester les cardinaux et les employés chargés de l'organisation du conclave.
Nicolas, on l'a dit, c'est une élection top secrète qui va se tenir. Les cardinaux sont tenus au silence, alors le silence le plus total.
Oui, eux et les laïcs également qui vont participer à l'organisation de ce conclave, tous prêtent serment de ne rien dire. C'est ce qu'explique Patrick Valdirini, professeur de droit canonique et chanoine de la basilique Saint-Jean de Latran.
Le secret est absolu et on y a attaché une excommunication que l'on appelle l'ate sententiae, c'est-à-dire la sanction la plus importante dans l'Église. Donc ils sont tenus à ne rien dire de ce qu'ils ont entendu et vu et vécu.
Mais souvent des informations fuitent après le conclave. L'essentiel, c'est que rien ne filtre pendant. Les règles sont très strictes. Tous les participants restent sur place. Aucun contact avec l'extérieur. Des scellés en plomb vont boucler l'entrée du périmètre dédié au conclave. Et les vitres du palais du Vatican ont même été obscurcies.
Et mesure assez exceptionnelle, Nicolas, le réseau mobile sera aussi coupé dans une large partie du Vatican.
Alors là, pas où je me trouve, heureusement, pour qu'on puisse continuer à échanger, mais dans le reste du Vatican, oui, à partir de 15h, les antennes mobiles seront coupées, les appareils électroniques, tous les capteurs désactivés, les électeurs doivent céder leur téléphone portable, les bagages ont été scannés pour vérifier qu'aucun appareil électronique ne puisse rentrer dans la chapelle Saint-Marthe. C'est le cas du cardinal Jean-Paul Vesco, archevêque d'Alger. Il a pu échanger avec nous juste avant d'entrer en isolement.
Tout ça est fait pour donner quand même un espace pour la prière, pour être face à soi-même. Ça, c'est peut-être pas forcément toujours très facile, mais c'est bon parce que ça date du XIIIe siècle et ce système qui paraît complètement d'un autre temps n'a jamais été aussi utile qu'aujourd'hui, où il y a tous les réseaux sociaux, où on est connecté de partout. Et donc, tout d'un coup, être mis à l'écart, c'est extraordinaire, quoi. Voilà, c'est extraordinaire.
Cet isolement va durer au moins jusqu'en début de soirée où on aura le résultat du premier vote. Des bulletins sont brûlés et des produits chimiques sont ajoutés pour colorer la fumée si elle est noire. Et elle l'est très souvent le premier jour. On continue chaque jour. 2 votes le matin, 2 votes l'après-midi, avec une journée de pause éventuellement ce samedi, le 3e jour. Mais beaucoup espèrent ici que dès jeudi ou vendredi, la fumée blanche puisse sortir de la cheminée et qu'apparaisse au balcon l'un des cardinaux électeurs, vêtu de blanc face à la foule place Saint-Pierre, qui elle pourra acclamer son nouveau pape.
Voilà, ce n'est donc pas pour tout de suite. Merci beaucoup et bon courage pour le marathon, Nicolas Roquin, envoyé spécial à Rome, qui signait notre dossier ce matin sur RFI.
Un dossier suivi de près au Proche-Orient.
Par les catholiques, bien sûr, mais ce conclave est aussi scruté par les fidèles des autres religions. C'est le cas pour la communauté musulmane de Jérusalem. La mort du pape François, le 21 avril dernier, a suscité beaucoup d'émotions. Lui qui avait pris position et qui avait soutenu à de nombreuses reprises les Palestiniens de Gaza. Qu'attendent aujourd'hui les musulmans de la ville sainte? Réponse et reportage d'Amira Suilem.
Sur l'esplanade des mosquées, l'imam débute son prêche. Des grappes de policiers israéliens patrouillent. À l'ombre d'un arbre, deux vieux amis discutent.
L'ancien pape nous a aidés. Il prenait la parole pour dire que ce qui se passe à Gaza est injuste et ne devrait pas arriver. Il était très bien, ce pape. Il a vraiment voulu aider. Il a fait tout ce qu'il pouvait. Personne n'a autant fait pour nous que lui. On espère que le nouveau pape arrivera à mettre fin au massacre à Gaza.
Un voile vert encadrant ses yeux de la même couleur, Rouloud, la cinquantaine, dit vouloir la paix, elle aussi, et des relations approfondies avec l'Église.
Nous respectons le christianisme, on croit en Jésus et dans tous les prophètes. Pour nous, le pape est un croyant, un bon croyant, même s'il n'est pas de la même religion que nous, on a le même Dieu et on espère qu'il apportera la paix. On est fatigué de cette guerre.
Comme les chrétiens palestiniens, les musulmans de Jérusalem souhaitent que le nouveau pape soit comme François, avant lui, leur ambassadeur. Amira Suilem, Jérusalem, RFI.
Le pape François qui avait multiplié les appels à la paix et à l'arrêt des combats à Gaza, l'enclave palestinienne où la guerre continue. La défense civile fait état de 11 nouveaux morts ce matin lors de nouvelles frappes israéliennes à Jenin et sur Ran Younes au sud de Gaza, où 8 membres d'une même famille, la famille Al-Qidra, ont été tués. Le Hamas dit ne plus voir d'intérêt à négocier une trêve avec Israël, alors que l'État hébreu a fait part de son plan de conquête de Gaza. Gaza sera totalement détruite, a affirmé hier Bezalel Smotrich, ministre israélien des Finances, prévoyant un déplacement massif de la population palestinienne.
Au Soudan, les frappes se poursuivent sur la ville de Port-Soudan.
De nouvelles attaques de drones, et ce pour le 4e jour consécutif. Port-Soudan, siège provisoire du gouvernement soudanais, après l'aéroport, après des dépôts de carburant ces derniers jours. C'est ce matin la base navale de la ville qui a été prise pour cible. Des attaques répétées et attribuées au FSR, les forces de soutien rapide du général Hemeti, en guerre depuis maintenant plus de 2 ans avec l'armée régulière du chef de l'État Abdel Fattah al-Burhan. Le Soudan qui a par ailleurs rompu hier ses relations diplomatiques avec les Émirats arabes unis, qualifiés d'État agresseur par le gouvernement soudanais qui accuse Abu Dhabi de livrer des armes au FSR.
RFI 9h10 à Paris, journée chargée à l'Élysée.
Mohamed al-Shara est attendu. En fin d'après-midi, le président syrien par intérim qui effectue son tout premier déplacement européen et qui rend visite à Emmanuel Macron à l'Élysée, alors que depuis la chute de Bachar al-Assad, c'était début décembre, le pays fait face à de terribles violences communautaires. guerre qui touche notamment les minorités alaouites et druzes en Syrie. La présidence française dit vouloir œuvrer à une construction d'une nouvelle Syrie libre, stable et respectueuse, Abla Junaïdi.
Soutenir les aspirations du peuple syrien à une Syrie démocratique, c'est la ligne de la France depuis 2011, dit l'Élysée à la veille de cette visite très scrutée. Une visite qui doit permettre d'établir un lien plus direct avec le nouvel homme fort du pays et lui demander sans détour le respect de ses engagements. Alors que la Syrie est le théâtre depuis plus de deux mois de violences interconfessionnelles visant les alaouites puis les druzes, Ahmad el-Sharaa est attendu sur des actes. Sur la transition politique, plusieurs étapes ont été franchies comme la mise en place d'un gouvernement, une commission pour juger les auteurs des massacres doit elle encore aller au bout de son travail. Paris devra insister ce mercredi sur la lutte contre le terrorisme. « Nous ne sommes pas naïfs », dit l'Élysée, en référence au passé djihadiste d'Ahmed el-Sharaa. La France attend une coopération sans complaisance. Pour se faire entendre, Paris et les Européens ont dans leur manche l'arme des sanctions économiques, dont une partie a été levée dernièrement pour favoriser les réformes. La France propose son expertise en matière financière au président intérimaire. L'enjeu, instituer la transparence nécessaire pour espérer attirer à terme les investisseurs. Pour relancer son économie, la Syrie a besoin d'au moins 250 milliards de dollars.
Explication signée Abla Junaïdi du service international de RFI.
Et avant le chef d'État syrien par intérim, le nouveau chancelier allemand est attendu à la mi-journée à l'Élysée.
Friedrich Merz qui veut rapidement endosser un nouveau costume, son nouveau costume, et rapidement passer à autre chose après sa douloureuse élection hier au poste de chancelier, lui qui est entré dans l'histoire par la petite porte en devenant le premier chancelier élu après deux tours au Bundestag, le leader de la CDU qui n'a pas réussi hier à obtenir le nombre de voix suffisantes lors du premier tour, qui devait être une simple formalité, un faux départ qui illustre les faiblesses de sa coalition, mais qui jette aussi le doute sur ses ambitions pour l'Allemagne et pour l'Union européenne. Un couac qui n'est pas passé inaperçu au Parlement européen de Strasbourg, où s'est rendu notre reporter Jean-Jacques Herry.
Il y a ceux qui s'attachent d'abord au résultat final, et tant pis si c'est la première fois qu'un chancelier doit s'y reprendre à deux fois pour être adoubé par les députés.
L'Allemagne a un nouveau chancelier, et ça c'est le plus important. Il a un vrai profil européen. Il a commencé sa carrière comme député au Parlement européen.
Un discours logique, Daniel Caspary est eurodéputé allemand conservateur, membre de l'Union chrétienne démocrate d'Allemagne, le même parti que le nouveau chancelier. Il balaie toute accusation de faiblesse politique, le gouvernement stable et proactif que toute l'Europe attend, il est là, et bien là, selon lui.
Nous avons l'intention de dépenser beaucoup plus d'argent en matière de défense, en créant de la dette pour pouvoir financer le secteur. C'est un signal très clair que l'Allemagne est maintenant prête à endosser les responsabilités que nos partenaires attendent de nous voir endosser depuis des années.
Dès aujourd'hui, Friedrich Merz se rendra à Paris pour sa première visite officielle, afin de relancer le couple franco-allemand, longtemps à l'initiative au sein de l'Union, mais beaucoup moins ces dernières années. Valérie Ayer, présidente du groupe Renew au Parlement européen, s'en réjouit.
C'est nouveau, notamment après la séquence qu'on a connue avec Olaf Scholz, qui a été marquée par beaucoup d'inertie. Aujourd'hui, on a un chancelier qui a rejoint les positions d'Emmanuel Macron autour de l'autonomie stratégique. Et je crois fondamentalement que ça va véritablement changer la donne dans la dynamique des discussions au niveau européen. Et c'est une bonne chose.
De son côté, la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, affirme vouloir travailler avec Friedrich Merz pour une Europe forte. Jean-Jacques Herry, Strasbourg, RFI.
Le nouveau chancelier de 69 ans qui doit donc rencontrer le président français ce midi à Paris.
On termine, Martin, par ce véritable festival sur la pelouse de Milan.
Où les joueurs de l'Inter et du Barça se sont rendus coup pour coup au terme d'un affrontement déjà légendaire en demi-finale de la Ligue des Champions. Après le nul 3 partout décoiffant du match aller, les interistes ont coiffé au poteau les Catalans 4-3 en prolongation. L'Inter qui attend désormais le PSG ou Arsenal en finale. Grande soirée spéciale sur RFI à suivre dès 18h50 universel pour cette demi-finale retour, ce sera avec Cédric de Oliveira au Parc des Princes.
Merci Martin Guez, c'était le journal sur RFI 9h14 à Paris. Et on revient ensemble tout de suite sur cette montée de tensions brutales et meurtrières ces dernières heures entre l'Inde et le Pakistan autour de la région très disputée du Cachemire. Des bombardements, au moins 34 morts civils tués donc pour l'heure, surtout du côté pakistanais. Bonjour Olivier Dallage.
Bonjour.
Ancien rédacteur en chef à RFI, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de l'Inde, auteur de plusieurs ouvrages. Olivier, on assiste ici à une montée de tensions sans précédent depuis 20 ans entre les deux puissances nucléaires. Comment en est-on arrivé là ?
Bah, tout simplement parce que la question du Cachemire continue d'opposer, de diviser l'Inde et le Pakistan, et ce depuis la partition et l'indépendance des deux pays en 47-48. Quelques jours avant l'assassinat de ces 26 touristes, le chef de l'armée pakistanaise avait fait un discours très remarqué en Inde, dans lequel il disait à la jeunesse pakistanaise que les hindous et les musulmans n'avaient rien à voir les uns avec les autres, et que le Cachemire était la veine jugulaire du Pakistan et que jamais le Pakistan ne lâcherait le Cachemire. Et quelques jours après, vous avez eu cet attentat terroriste. Donc, du point de vue de la population indienne, tout point de vue confondu, il y a un état d'unité nationale, si vous voulez, d'union sacrée contre le Pakistan. Et c'est dans ce contexte-là que l'opération a été menée.
Et alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait calmer cette crise en cours, Olivier Dallage ?
Je n'en sais rien, c'est la sagesse des deux dirigeants, enfin des deux groupes dirigeants de ces pays, et peut-être aussi la pression internationale. Pour l'instant, il y a eu une frappe des attaques indiennes, on sait qu'il y aura une riposte pakistanaise. Les Indiens disent que leurs frappes ont été calibrées pour ne pas aboutir à une escalade. Les Pakistanais vont réagir. Bien entendu, tout dépendra de la nature de la réponse. Est-ce que ça s'arrêtera là ou est-ce qu'on part dans un engrenage ? C'est un peu trop tôt pour le dire. Et puis, la communauté internationale est assez inquiète des dérapages possibles. Faudra voir ce que fera la Chine qui est proche du Pakistan, qui le soutient. Si la Chine décide de s'en mêler, ça peut changer aussi la donne.
Mmh. Et Londres, il y a quelques heures, s'est dit prêt à intervenir pour une désescalade. Est-ce que ça peut aider ? Est-ce que c'est à Londres d'intervenir ou à d'autres ?
Non mais il n'y a pas que Londres, le ministre iranien des Affaires étrangères était au Pakistan et il arrive en Inde, les Saoudiens ont téléphoné, les Russes ont téléphoné, les Américains également, le secrétaire général des Nations Unies, tout le monde demande la désescalade. Ce qui se passe, c'est que l'opinion indienne est chauffée à blanc face à ce qu'elle considère comme l'habitude du Pakistan de soutenir le terrorisme en Inde en général et au Cachemire en particulier, et que pour l'instant, spécialement ce gouvernement nationaliste hindou qui a fait de sa force un argument électoral, et il y a des élections dans plusieurs États indiens dans les semaines qui viennent, on voit pas comment il pourrait redescendre immédiatement. Après, je crois que ni le Pakistan ni l'Inde, bien entendu, ne veulent d'un conflit à outrance, mais les risques de dérapage sont toujours là.
Merci beaucoup Olivier Dallage d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je rappelle que vous êtes ancien rédacteur en chef à RFI, chercheur associé à l'IRIS, spécialiste de l'Inde. Ce sujet, ce regain de tension très très fort entre l'Inde et le Pakistan, c'est bien sûr à la une de la presse internationale ce matin. Alban Le Prince, à la une, la tension à son paroxysme.
Oui, entre l'Inde et le Pakistan, vous le disiez, dans un éditorial, The Nation dénonce une tempête de haine singulière et dévorante des musulmans. Le journal pakistanais prend l'exemple de Narwal, veuve d'un officier indien présenté dans un premier temps comme un symbole du deuil national et de force, est devenue aujourd'hui une pestiférée après avoir déclaré qu'elle ne voulait pas que l'attaque serve à attiser la haine. Aujourd'hui, nous raconte le journal, une veuve en deuil est devenue suspecte, non pas à cause de ses actes, mais parce qu'elle a osé défier la politique de la haine. De l'autre côté de la frontière, le Times of India accuse le Pakistan d'attiser les tensions. Dans un autre article, il dénonce l'establishment pakistanais qui a brisé sa société et mené son économie au bord du gouffre avant d'ajouter « Les discours bellicistes d'Islamabad sont en réalité des cris de désespoir. Le Pakistan, pour le dire crûment, n'est guère plus qu'un cas désespéré et bancal, redevable tantôt à l'Amérique, tantôt à Pékin. Le monde, lui, semble lassé. L'histoire se répète depuis 8 décennies, dont l'indifférence relative de la communauté internationale au sujet de la région du Cachemire, chacun cherchant à obtenir la pleine souveraineté du territoire, un choc de deux nationalismes incontrôlés.
On part à présent en Allemagne, Alban.
Les journaux se délectent ce matin de la séquence offerte hier par le Bundestag. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, le nouveau chancelier a dû se soumettre 2 fois au vote. Friedrich Merz arrive en boitant, ironise le Wall Street Journal, pour qui la situation politique est devenue si instable que même l'Allemagne, pourtant si calme, continue de réserver des surprises. El País, en Espagne, se montre plus optimiste. Merz n'est pas forcément condamné à être un canard boiteux, mais doit s'engager en faveur de la souveraineté européenne et du réarmement.
La presse internationale nous emmène aussi à Rome.
Pour l'élection du pape, avec cette question notamment, comment faire pour que les cardinaux élisent un nouveau souverain pontife rapidement ? Eh bien, cela se passe notamment dans l'assiette inquiète, explique ce matin le Corriere della Sera. Pendant le conclave, tout a un but précis, même l'alimentation, décrypte une historienne, et cela remonte au XIIIe siècle après un conclave de 1006 jours. Au Moyen-Âge, la faim était une arme de pression. Après 3 jours, on ne servait plus qu'un repas aux cardinaux. Après 5 jours, seulement du pain et du vin. Heureusement, aujourd'hui, les règles se sont assouplies. Au menu, il y aura donc les célèbres pasta del conclave, qui ne sont autres que des pâtes avec du beurre et du parmesan. Pas question de manger de dessert. Les cardinaux ont besoin d'un esprit clair et d'un corps pas trop fatigué par la digestion, explique l'historienne. Dernier aliment banni des repas, sans explication claire, les asperges. Un menu assez frugal et simple, pas étonnant, nous dit le Quotidien, que certains pourprés se soient accordés un dernier plaisir culinaire dans les bars et restaurants autour du Vatican. Alors cela veut-il dire pour autant que l'élection du pape prendra beaucoup de temps? Suspense.
Une chose est sûre, Alban, le pape ne sera pas une papesse.
Que dirait-on d'une association, d'une entreprise, d'un parti politique qui stipulerait dans ses statuts que tous les postes d'encadrement sont réservés aux hommes, s'interroge Libération, qui souligne que n'importe quel homme, baptisé, membre du clergé ou simple laïc, peut être élu pape selon le droit canonique, pourvu que ce ne soit pas une femme. Le Quotidien français pointe les religions formatées par la domination masculine, allant de l'enfer islamiste en Afghanistan au simple et classique conservatisme catholique, avant de conclure que seule une structure très verticale et centralisée comme l'est l'Église catholique pourrait paradoxalement faire bouger les lignes.
Merci Alban Leprince, c'était la revue de presse internationale sur RFI et c'est bien sûr, vous le disiez, un événement mondial qui démarre aujourd'hui à Rome, ce conclave, et parmi les favoris, les papabilés comme on dit, on trouve le cardinal hongrois Péter Erdő, 72 ans, ce conservateur modéré et pragmatique pourrait être l'homme du consensus. Sa candidature a en tout cas été largement soutenu par le Premier ministre hongrois, Viktor Orban. Pour en parler, on est en ligne tout de suite avec Budapest. Bonjour Florence Labruyère.
Bonjour.
Alors comment Viktor Orban a-t-il fait la promotion de ce papabilé hongrois ?
Eh bien, contrairement à Emmanuel Macron, dont le voyage à Rome n'est pas passé inaperçu, hein, notamment aux yeux de la presse conservatrice italienne qui avait accusé le président français de s'incruster dans le conclave, Viktor Orban a mené une diplomatie beaucoup plus discrète. Il a mis en place, il y a plusieurs années déjà, une stratégie pour accroître les chances du cardinal hongrois.
Et en quoi consiste cette stratégie, Florence ?
Eh bien, Viktor Orban, qui se dit chef d'un gouvernement chrétien, a lancé en 2019 un programme pour aider les chrétiens persécutés dans le monde. Par exemple, au Nigeria et au Burkina Faso, la Hongrie vient à la rescousse des familles qui ont fui les attaques de Boko Haram. Budapest envoie des médecins dans les camps de réfugiés et finance aussi la recherche de puits. Autre exemple, en Irak, le gouvernement hongrois soutient la reconstruction des églises et des écoles. En Éthiopie, il aide le clergé local dans l'assistance aux victimes de violences. Mais et c'est là où ça devient intéressant, où la stratégie est mise en place. Le gouvernement Orban ne se contente pas d'envoyer de l'argent. Il invite régulièrement les cardinaux de ces pays à Budapest. Et quand ces prélats viennent en Hongrie, ils voient le Premier ministre et ils rencontrent aussi le primat de Hongrie, le cardinal Erdő, candidat à l'élection du pape.
Une façon pour le gouvernement hongrois, Florence, de tisser des liens avec les cardinaux étrangers, dont certains sont des électeurs.
Tout à fait. Et un autre événement a permis à Viktor Orban de mettre en avant son candidat, c'est le Congrès Eucharistique Mondial qui a eu lieu à Budapest en 2021. La Hongrie avait posé sa candidature pour accueillir cet événement et c'est elle qui a effectivement décroché la fonction d'organisation parce que le gouvernement Orban a financé l'événement à hauteur de 85 millions d'euros. Et ça a été, ce congrès a été une occasion rêvée pour le cardinal Erdő, qui est un théologien très respecté, de briller, de se faire mieux connaître et de nouer des liens avec ses homologues. Et c'est important de le souligner parce que beaucoup de ces cardinaux électeurs venus des quatre coins du monde connaissent, la majorité connaît très peu le Vatican et ne connaissent pas vraiment les candidats.
Et si le nouveau pape était hongrois, en quoi est-ce que cela pourrait profiter à Viktor Orban ?
Viktor Orban veut jouer un rôle international, il aspire à être le pionnier du populisme dans le monde. Alors l'élection d'un pape hongrois, ce serait un trophée pour lui, ça couronnerait sa stratégie. Mais il faut aussi souligner que Viktor Orban a noué énormément de liens avec les républicains américains, et notamment avec la droite très ultra chrétienne des républicains américains. Et Orban a réussi à les convaincre que Peter Erdő était aussi leur candidat. Et il y a notamment dans le conclave le cardinal Dolan, qui est un proche de Donald Trump. Et tous ces cardinaux américains vont probablement aussi soutenir le candidat hongrois, Peter Erdő. Mmh. Donc pour Orban, ce sera un double succès. Et c'est un succès qui n'est pas négligeable à un an des prochaines élections en Hongrie.
Florence Labruyère en ligne avec nous de Budapest et ce conclave. On y revient bien sûr sur la longueur sur notre site RFI.fr. Éclairage à suivre notamment sur le déroulement de ce conclave à partir de cet après-midi. 133 cardinaux électeurs, je vous le rappelle, originaires de plus de 70 pays qui vont voter donc dans la chapelle Sixtine à partir de cet après-midi. C'était il y a un peu plus d'un an, le 13 mars 2024, l'Océan Viking, navire humanitaire affrété par l'association SOS Méditerranée, retrouvait un canot pneumatique avec à son bord 24 migrants et des dizaines d'autres morts. Cela fait 7 jours à cette époque qu'ils sont à la dérive. Or, un rapport d'Alarme Faune met en cause les gardes-côtes italiens et Frontex. Cécile Debarge a tenté de retrouver des survivants pour obtenir leur récit.
C'est la deuxième nuit que la situation commence à se dégrader. Les vagues sont énormes, le moteur ne fonctionne plus depuis plusieurs heures, le bateau pneumatique dérive au large des côtes libyennes et se remplit d'eau qu'il faut écoper sans cesse. Seules les lumières d'une plateforme pétrolière éclairent la nuit noire. Certains passagers ont des hallucinations.
Il disait « je vais marcher, me mettre debout et monter dans la voiture ». Il délirait, mais à ce moment-là, personne n'était mort encore.
Ali a 17 ans lors du voyage. Il est gambien. Cette traversée, dit-il, c'est son premier face-à-face avec la mort. Dès le deuxième jour, il n'y a plus rien à manger et de l'eau de mer comme seule boisson. À partir du quatrième jour, les morts s'accélèrent.
Certains sautaient dans l'eau, mais c'était eux qui voulaient le faire. Personne ne les a jetés. Parfois, ils voyaient un bateau au loin et sautaient à l'eau pour le rejoindre.
À quelques mètres de lui, de l'autre côté du bateau, Moudou, 21 ans, reste lui uniquement concentré sur son objectif, atteindre l'Europe. C'est la deuxième fois qu'il tente de monter à bord d'un bateau après que le premier a coulé à quelques mètres de la plage du départ en Libye.
Deuxième fois,
j'ai subi beaucoup de tortures, beaucoup de problèmes. Alors ce qui fait qu'au deuxième tentative, il fallait que je parte.
Comme Ali, il essaie de ne pas dormir ou le moins possible et de ne penser qu'à rester en vie.
Moi, j'ai un vécu très difficile. J'ai vécu en Casamance au Sénégal, dans la zone la plus difficile. À 5 ans, je me suis débarrassé de ma mère. J'ai toujours travaillé seul, voilà, donc cette force-là m'a donné cette énergie.
Au total, 23 personnes ont survécu, des Gambiens, Maliens et Sénégalais. Ils vivent aujourd'hui en Italie, où ils attendent leurs papiers, et pour l'un d'entre eux en Espagne. Tous ont refusé de reparler de ce voyage et ont demandé à Moudou de parler en leur nom à tous.
La partie la plus importante pour lui, c'est de raconter vraiment la situation de tous ceux qui sont perdus en mer, qui sont morts, qui ne sont pas arrivés. C'est des personnes qui étaient vraiment chargées d'une mission, d'un objectif, pour apporter espérance à leur famille et tout. Et malgré tout ça, ils ne sont pas arrivés.
En 2024, au moins 2475 personnes migrantes sont mortes en Méditerranée et plus de 500 depuis le début de l'année. Cécile Debarge, Ancône, RFI.
Un reportage à retrouver en intégralité aujourd'hui dans notre émission Accent d'Europe. Rendez-vous à 19h10, heure de Paris, 17h10, temps universel. À retrouver aussi sur toutes les plateformes d'écoute RFI. Restez avec nous.
RFI, la sélection du mois.
Polo et Pan avec Vico et Antonin.
Elle est douée,
t'es mal comme vous les cata de Chiyoki.
Ton tatou est
le loutoutoutou, le loutoutoutou.
Tu ris,
fais un souhait.
Lundi,
je l'ai vendredi.
RFI Musique.
tout à l'heure sur RFI, sur le Pont des Arts, Nathalie Amar.
Elle voulait à tout prix réaliser le rêve de son père, réunir pour un concert 4 Stradivarius. Mais l'ego des artistes va transformer ce rêve en cauchemar. La comédie Les Musiciens sort cette semaine sur les écrans en France. Grégory Magne, le réalisateur, et l'acteur principal Frédéric Pierrot seront avec nous.
Sur le Pont des Arts,
avec la compagnie Corsair.
Du lundi au vendredi à 15h10 TU, sur RFI.